Hallo, zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Viel Spaß auf Kanal K, am Mikrofon Sylvain Amos. Bonsoir, Guinée-Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Ghana. En bref, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue au cœur du continent noir dans Fenêtre sur l'Afrique, un programme de radio Canal K en Suisse alémanique. Merci d'être en direct avec nous sur le www.canalk.ch. Le 28 septembre 2009 a marqué la répression sanglante de la manifestation pacifique des opposants de la dictature militaire en Guinée-Conakry. Un an après ce malheureux événement, le collectif du 28 septembre demande que justice soit rendue aux victimes. Nous recevons dans un instant en ligne, en direct depuis Paris, le président de ce collectif, M. Bardet Kaba, qui nous fera également ses analyses sur le second tour des élections en Guinée. L'actualité politique au Togo après l'élection présidentielle du 4 mars dernier est toujours très critique. Pour en savoir plus, nous aurons en ligne depuis Dakar le professeur Aimé Gogué, président de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Agbomi Kodjo, président d'OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, sera également notre invité depuis Lomé. Gisela Rostato, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudodi, Fabi Kouati constituent l'ossature de Fenêtre sur l'Afrique. Au micro, votre ami de tous les samedis, Sylvain Amos. Et bien avant de continuer cette émission, je vous propose tout de suite d'écouter l'éditorial de Romain Koudodi et qui est déjà en ligne depuis Beaune.
Au nom de la loi, le soldat Dadi doit être traduit au tribunal pénal international. Les États qui se sont réunis en une organisation mondiale doivent parvenir à un accord sur la façon dont ils veulent comprendre ce qu'ils ont déclaré en commun être les droits de l'homme. Pour cela, l'impunité ne doit pas faire école en Afrique. Patrice Emery Lumumba, dans Mémoire du continent. Le 28 septembre de l'an 2009, le peuple fier de la Guinée a connu sous la responsabilité du tristement célèbre sanguinaire Moussa Dadi Camara le jour le plus long de son histoire politique. Il y a un an, la soif de la liberté, de la démocratie, qui stipule la liberté du peuple par le peuple et pour le peuple, a été volontairement, brutalement sevrée aux Guinéens. La violence, la bestialité et l'ignominie dont le massacre au stade du 28 septembre a eu lieu devant la communauté internationale nous interpelle à juste titre et nous démontre à suffisance les carences et les tares des hommes en kaki sur le continent noir qui ont de l'allergie au respect de la dignité humaine. Pour la petite histoire, le 28 septembre 2009, le peuple ami de la Guinée, en harmonie avec la coalition des forces vives, avait organisé une manifestation de protestation contre les velléités exagérées et la soif du pouvoir manifeste du capitaine Moussa Dadi Camara, à l'époque chef de la junte en Guinée. Rappelons que cette manifestation pacifique, qui avait connu la participation des leaders politiques tels que Mamadou Sélou Galin Diallo, Jean-Marie Doré, Sidia Touré, François Louceni, Diallo et autres a été sauvagement réprimé par la garde présidentielle du capitaine Dadi qui a tiré à bout portant à balles réelles sur des manifestants à main nue. Le bilan fut lourd, plus de 150 morts. Des femmes ont été prises en étau par la garde présidentielle, violées et tuées. Les hommes en kaki sont allés à l'école de leurs homologues africains, dont le Togo avait connu aussi un cas similaire lors des événements malheureux du Jardin Fréau. Heureusement, les hommes en kaki anti-républicains n'ont pas poussé la bassesse en commettant des viols en ce temps-là au Togo. A-t-on besoin de rappeler encore une fois que plus de 365 jours après cet événement malheureux dans ce pays, ce crime odieux, lâche et bestial d'une époque révolue est restée impunie. rien n'a été fait pour traduire les coupables devant les juridictions compétentes en la matière, afin que ceux-là répondent de leurs actes ignobles. Pire, le tristement célèbre Dadi se la coule la douce en toute impunité au Burkina chez Blaise Compaoré, avec la complicité tacite de la communauté internationale et du TPI, en l'occurrence. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu es, dit-on. Blaise et Dadi sont-ils devenus blanc bonnet et bonnet blanc? Ce cadeau empoisonné nommé Dadi ne pèse-t-il pas lourd dans les bras de Blaise? Le constat est d'autant plus triste que sur le plan interne, les deux candidats en lice pour l'alternance en Guinée au second tour des élections présidentielles ne parlent même pas dans leur programme de la lutte contre ces odieux crimes ou du moins de la manière dont les victimes traumatisées seront prises en compte. Hélas, c'est plus grave. Cette communauté internationale et la Cour pénale jouent au bémol comme si le cas de la Guinée est à mettre en perte et profit. Cynisme pur, injustice et inégalité. Dans le traitement des disparités dans le monde par la désinvolture de la Cour pénale. Pauvre Afrique, pauvre peuple fier de la Guinée, peuple combattant, peuple guerrier de l'ex-empire de Soundiata Keïta, peuple assoiffé de changement qui n'a jamais eu l'opportunité de passer de la dictature implacable à un système de gouvernance plus libre. Aujourd'hui encore, nos regards se tournent vers vous pour vous dire que la nuit est longue, mais beaucoup de chemin reste à parcourir dans la longue marche vers votre affranchissement total et définitif de l'impérialisme à outrance qui sert de mieux en mieux son étau par ses opportunistes d'opposants qui préparent le lit à des intérêts occidentaux. Loin s'en faut, vous n'êtes pas seul. Toute l'Afrique, tout le vieux continent, berceau de l'humanité, avec ses panafricanistes épris de justice et d'équité sont avec vous. Les multiples manifestations contre la France-Afrique actuellement partout dans le monde et les chancelleries françaises, après 50 ans d'indépendance et d'assujettissement de la France mafieuse, prennent vos doléances en compte. Ils le font tellement si bien que vous n'avez pas à vous en plaindre. Que l'Éternel bénisse la Guinée dans sa marche vers Canaan, la terre de paix, où le peuple en harmonie avec elle-même prendra sa destinée en main. Vive la Guinée! Pour que vive l'Afrique.
On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien.
On a tout compris, on a tout compris. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans le bus, n'est chanté Patrick Ndiaye Fakoly. Et pour aborder tout de suite la politique au Togo, nous avons déjà en ligne notre correspondante Fabi Kouassi qui est déjà en ligne. Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à tous nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner. Quelles nouvelles avez-vous pour nous, pour les manifestations hebdomadaires du FRAC? Un front qui conteste toujours la réélection de Fonia Singbe, Fabi.
Les activités du FRAC, Sylvain, se poursuivent dans la répression et à chaque manifestation, les gaz pleuvent. Pour ce 2 octobre, les forces de sécurité ont même exagéré puisqu'il y a eu des blessés, au moins deux, dont un reporter sur qui les forces de sécurité ont tiré du lacrymogène à bout portant. Notre confrère Tony Soji, c'est 2-3, hein, puisque c'est pour la troisième fois qu'il est la cible des éléments de sécurité. Il a reçu les premiers soins et a pu quitter la clinique à l'heure où je vous parle. Depuis l'incident, le tondeau avec notre confrère Didier Ledoux du quotidien Liberté, la presse est devenue la cible des corps habillés. Et donc en quittant le domicile de M. Fab tout à l'heure, il y avait un monde fou parmi lesquels plusieurs blessés malheureusement. Le mercredi dernier aussi, les gaz ont été lancés en désordre. Et ce qui est étonnant, c'est que les populations développent une résistance terrible vis-à-vis des lacrymogènes. Et c'est un fait assez remarquable de voir les gens inhaler les gaz et de rester mobilisés derrière le FRAC. De Notre-Dame des Apôtres, pour ceux qui connaissent le mais jusqu'au domicile de M. Fabre à Kodiakopé, c'est des fumées à n'en plus finir, mais les populations étaient là. Et à Kodiakopé, où les leaders du FRAC n'ont pas eu accès, l'affluence était monstre. Voilà, si bien de façon ramassée, ce que nous pouvons dire sur les activités du FRAC qui est toujours au front.
Oui, Fabi Kouassi, merci. Mardi 5 octobre prochain marquera 20 ans d'anniversaire du mouvement 5 octobre. Face à la contestation actuelle du FRAC, quel parallèle peut-on faire avec ce soulèvement populaire du 5 octobre 90, Fabi?
Oui, le 5 octobre, c'était pour Souyadema Nyasimbe. Le FRAC, c'est sous le fils, toujours pour contester, pour exiger une certaine alternance, un certain changement démocratique dans le pays. Et avant de consacrer un programme spécial à cet événement, à 3 jours de cette célébration, je pense qu'il est bien de rappeler, ne serait-ce que brièvement, qu'il y a 20 ans, cette année, que le peuple togolais s'est soulevé contre la dictature militaire de Nyasimbe Yadema pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme. 20 ans après, des milliers de Togolais ont péri pour la conquête de cette démocratie-là, beaucoup d'exilés avec des milliers de compatriotes un peu partout dans le monde, des trahisons dont le sort même a été celle tout récemment de Guy-Chris Olympio. Il y a des voix plus indiquées que la nôtre, mais 20 ans après, le bilan est négatif et le Togo continue de s'illustrer comme un État policier où la dictature a pris des proportions plus qu'inquiétantes. Parce que le pouvoir, après avoir acheté presque tout le monde, hein, y compris une certaine communauté internationale, se cache derrière un semblant de démocratie pour organiser des simulacres d'élections qu'il s'arrange toujours à gagner avec la complicité de certains Togolais, de certains milieux diplomatiques. Et avec le revirement spectaculaire du fils de l'indépendance du Chris Olympio, nous voici à la case départ où tout est à refaire. La seule constante reste ce peuple togolais resté digne et accroché à un changement profond, même au péril de sa vie. Et ce peuple toujours debout et bastonné, jeté en prison, enlevé, tué, mais il est toujours là, fier. 20 ans après, la démocratie reste à conquérir et la lutte ne fait que commencer à en croire beaucoup de milieux, beaucoup de Togolais qui restent quand même optimistes malgré le flot de sang qui a coulé. Et le FRAC en est une preuve vivante. Le retour de la presse de combat, la presse engagée, la presse qui dénonce les dérives du pouvoir est à saluer. Une société civile où une partie a été achetée, mais une partie qui reste également au front. Des associations de défense des droits de l'homme qui, malgré le peu de moyens, essaient d'alerter le international sur les violations flagrantes et massives des droits de l'homme sont quand même des signes encourageants de ce peuple-là et de ces compartiments qui restent debout pour un Togo meilleur, pour le meilleur des générations à venir.
Oui, Guy-Chris Olympio a fait de nouveau cette semaine à Lomé une sortie médiatique. Que retenir alors de la conférence de presse qu'il a animée au siège de l'UFC, Fabi?
Oui, on retient que Guy-Chris reste dans sa logique. Hein. Il se plaît très bien aux côtés de ses amis du RPT, hein, qu'il appelle en tout cas nos amis. Aujourd'hui, 6 mois après plus de 4 mois de cohabitation, c'est le statu quo. Guy-Chris a promis qu'avec cet accord baptisé historique, qu'il y aura des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Après plus de 4 mois, pas de réforme. Est-ce que ce qu'on n'a pas pu faire en 4 mois, on le fera en 6 mois? C'est la question reste posée. Assemblée. Et au cours de cette conférence de presse, il a étalé sa haine contre Jean-Pierre Fabre et tous ceux qui ne sont pas dans cette aventure périlleuse avec lui. Il a évoqué cette cohabitation-là à la question d'un journaliste. Vous avez promis que vous serez dans des postes stratégiques, dans les directions des sociétés d'État, dans les ambassades. Il a dit c'est une question de temps, ça va venir. Donc cette heure de suffisance, cette heure d'orgueil, d'égocentrisme est toujours là, caractérisant le personnage qui ne respecte personne. Pour lui, ce qui compte, c'est Guy Chris Olympio qui est le centre du monde. Donc au finish, après cette sortie médiatique, on dirait que c'est une sortie ratée. Il ferait mieux de ne pas faire le point sur cette aventure avec le RPT à mi-parcours, que personne ne s'en étonnerait. Maintenant, cette sortie vient confirmer que finalement, les deux fils de la nation, les deux héritiers, n'ont rien à offrir aux Togolais, et c'est bien dommage. Et cette conférence de presse, il faut le rappeler, a été faite au siège de l'UFC, qui a été assiégé récemment, et sous haute présence des forces de sécurité. Cela veut dire que Chris Olympio n'a rien pu circuler librement à Lomé. Il a peut-être peur pour sa vie, mais c'est une réalité, c'est en fait, et c'est vraiment dommage. Et c'est sûr qu'après 6 mois, on en sera encore là, pas de réforme, rien. Et puisqu'il reconnaît aujourd'hui que c'est sous lui et sous Fort que les gens sont gazés à volonté, que les gens sont enlevés en pleine rue, sont jetés en prison. Voilà, Guil, un autre dictateur qui n'a rien à envier à Nancy Lepère.
Fabi Kouassi, merci. Nous allons prendre tout de suite notre premier invité qui n'est autre que le professeur Aimé Tchabouré-Gogué, président de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Normalement, nous devons le joindre depuis Lomé, mais il a fait le déplacement au Sénégal, à Dakar. Nous avons quand même pu réussir à le joindre depuis Dakar. Nous allons l'écouter tout de suite. Bonsoir, professeur Aimé Tchabouré-Gogué.
Bonsoir, Sylvain.
Merci d'être en direct avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. En tant que membre du FRAC, quel bilan pouvez-vous nous faire après 6 mois de contestation de la réélection du président Fonia Singbé?
Je te remercie, Alain. Tu sais, c'est la première fois que l'opposition togolaise conteste aussi longtemps et de manière permanente et dure l'élection présidentielle, ou bien du moins c'est les résultats d'une élection. Donc le premier constat qu'on fait, c'est que ça montre que beaucoup plus que nous l'espérons, la population togolaise est contre le régime, est contre les résultats proclamés. Ça, c'est le premier point. Donc nous avons réussi à mobiliser pendant longtemps la population sur notre revendication. Deuxième point, donc nous avons fait connaître au monde que ces résultats ne sont pas acceptés par beaucoup de Togolais. Mais l'objectif que nous recherchons, ce n'est pas faire reconnaître les gens, mobiliser les gens, mais c'est obtenir que les résultats ne soient pas reconnus dans le monde, par le Togo et dans le monde entier. Ça, nous n'avons pas réussi cela. Mais nous pensons qu'il faut monter à une étape supérieure, comme le gouvernement est arrivé aussi à monter à une étape supérieure par la violence. Bon, nous ne mettons pas par la voie de la violence, mais nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre d'autres stratégies pour aboutir à notre résultat. Donc notre objectif, ce n'est pas seulement faire connaître aux gens que nous n'acceptons pas les résultats, mais aussi c'est de montrer, c'est d'obtenir le fait que l'élection ne soit pas reconnue et que nous revenions sur les résultats proclamés. Donc pour le moment, nous n'avons pas obtenu cela. Nous allons monter aussi d'un cran. Nous allons mettre en œuvre d'autres stratégies prochainement pour pouvoir arriver à cela. Donc le problème qui gêne actuellement pour la mise en œuvre, qui retarde la mise en œuvre totale de cette nouvelle stratégie, que nous avons commencé un peu, hein, c'est les problèmes internes à l'UFC que vous connaissez, qui continuent un peu à ralentir les stratégies vers la non-reconnaissance officielle des résultats, proclamés par la Cour constitutionnelle à la suite des élections du 4 mars dernier.
Oui, professeur Aimé Gogué, les informations font état de ce que vous avez rencontré le corps diplomatique au Togo à plusieurs reprises. Que peut-on retenir de ces échanges?
Bon, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des nouvelles stratégies que nous adoptons. Nous avons commencé à aller au niveau international. Nous avons donc rencontré le corps diplomatique, notamment les représentants de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des organisations des Nations unies au cours de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Premièrement, nous leur avons fait l'état de lieu de violation des droits de l'homme au Togo, de la violence utilisée par le gouvernement. Et en fait aussi, nous avons insisté sur le fait que nous ne connaissons pas les résultats. Donc ils sont bien conscients, ils sont conscients des problèmes que cela crée au niveau du gouvernement. Ils sont conscients des inquiétudes que le gouvernement a et ce qui expliquerait les réactions du gouvernement. Et évidemment, ils nous suggèrent de discuter, d'entrer en dialogue avec le gouvernement. Mais nous, notre position est suffisamment claire. Nous n'avons pas, c'est certain que même si vous faites une guerre avec des gens, vous êtes obligé de négocier à la fin. Mais pour nous, la revendication principale, qui est la non-reconnaissance des résultats du 4 mars, est toujours valable. Donc pour le moment, nous maintenons notre position. Ils sont mieux informés par nous. Et ils nous ont fait part aussi également des préoccupations du gouvernement. Donc c'est un point que nous connaissons.
Oui, professeur Aimé, restez toujours en ligne avec nous depuis Dakar, Sénégal. Et Romain, vous êtes toujours encore en ligne, Romain?
Oui, bonsoir, professeur.
Bonsoir, Romain.
Oui, professeur Aimé, mon intervention va se situer en deux points. Le premier point, c'est suite à la réponse que vous venez de donner à mon confrère Amos de tout à l'heure. Et je voudrais vous dire aussi qu'en politique, pour pouvoir faire fléchir un certain nombre de points ou arracher des concessions au niveau de l'adversaire, il faut des rapports de force. Votre force aujourd'hui, c'est la population, c'est les marches, c'est la non-reconnaissance du peuple par cette élection. Mais il se fait que les marches et les veillées ne tiennent plus et que vous êtes hebdomadairement gazé. Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir s'asseoir à une table et d'ouvrir une négociation franche et honnête avec le pouvoir, peut-être avec l'appui des ambassadeurs, des corps diplomates à Lomé? Et c'est le premier point de mon intervention. Et la deuxième, s'il vous plaît, c'est que les marches aujourd'hui et les veillées ne sont plus d'actualité. Quelle est la stratégie finale pour pouvoir renverser la situation?
Non, comme vous le dites bien, que ce soit dans les négociations, bien que ce soit en guerre ou dans tout rapport entre individus, dans ce type de rapport, il faut tenir compte des rapports de force. Bon, un, le gouvernement place à toute l'administration à la force de l'ordre qu'il utilise comme bon lui semble, de manière illégale. Et nous, c'est la population. Nous avons réussi à montrer qu'après 6 mois de manifestation, que la population avec nous, que nous avons une masse. Il va de soi que peut-être que nous n'avons pas atteint encore la mobilisation, la masse critique. Dans la mesure où, lorsque nous manifestons, il y a des centaines de milliers de gens dehors, mais les gens disent eux-mêmes qu'ils sont pour nous, mais ne manifestent pas. Donc, nous avons encore toute une réserve de gens à pouvoir faire sortir. Donc, nous mettons en place une stratégie pour essayer de passer cette étape supplémentaire, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qui concerne, est-ce qu'il est temps de rentrer en négociation? Oui et non. Et pour nous, c'est très mauvais que la situation dure autant, que la population souffre. Et tout le monde souffre, ce n'est pas une bonne chose pour nous que la crise se prolonge. Mais en même temps, nous voulons rentrer en négociation, il faut que le gouvernement sache que cette fois-ci, ce n'est pas comme les négociations passées, où on nous jette des miettes et nous sautons dessus. Non, pour cette fois-ci, nous voulons régler le problème, nous voulons souhaiter que des négociations aboutissent à des résultats très concret. C'est ce que nous avons dit à la communauté internationale qui pensait qu'on pourrait négocier en laissant de côté la contestation des résultats du 4 mars. Pour nous, c'est très clair, ça fera partie des négociations. Les élections passées font partie des négociations pour donner un sens aux élections futures dans ce pays, au Togo. Donc pour nous, c'est très clair. Nous sommes prêts à négocier, mais nous n'allons pas négocier comme avant. Nous voulons négocier des choses sérieuses. Tout d'abord, les résultats des élections passées, nous pensons avoir gagné. Et pour que ce soit très clairement établi, c'est des points sur lesquels nous allons négocier. Nous allons laisser ça en parenthèse du tout. Et nous sommes déterminés pour ce point.
Professeur Tchabré Aimé Gwagi est revenu encore une fois à l'UFC. Jikis Olympio, dans une déclaration le 27 septembre, a remplacé Jean-Pierre Fabre à la tête du groupe parlementaire UFC. Quelle est votre réaction puisque vous faites partie et vous faites le même combat avec Jean-Pierre Fabre?
Non, ce n'est pas le fait de faire partie du même combat, c'est le fait d'être Togolais 1 et de 2, de lutter pour la promotion de la démocratie. Je trouve fortement regrettable. Pour le moment, j'aime pas tellement critiquer Guy Pris pour une option. Il a fait une option que, bon, on aurait souhaité que ça marche, même si nous n'avons pas opté pour cela. Mais je trouve fortement regrettable qu'il pense qu'en dehors du Parlement, sans respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, qu'il puisse décider que lui, il change le président du groupe parlementaire. Il revient au député, je crois, suivant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de leur délire, leur chef, leur président du groupe parlementaire. Or, je veux savoir que sur 27 députés que compte l'UFC, 20 sont en faveur de Jean-Pierre Fabre. Je ne vois pas comment, comptant seulement sur 7 députés, il peut décider à lui seul de remplacer le président du groupe, de ce groupe parlementaire. C'est totalement logique et sans pas en cohérence avec les textes du pays. Je trouve fortement regrettable encore que des gens qui luttent pour la promotion des droits de l'homme, de la démocratie au Togo, puissent et se foutre des textes jusqu'à ce niveau. Je crois qu'il faudra qu'on revienne au texte et applique au texte. Appliquer les textes. Si Guy n'est pas d'accord avec Jean-Pierre Fabre, il crée son groupe parlementaire avec ses 7 députés, il élit un autre groupe parlementaire. Il ne peut pas dire aujourd'hui, parce que lui a décidé de renvoyer Jean-Pierre Fabre de son UFC, qu'il a raison. La justice est là, c'est à la justice de décider si le UFC revient à Gilchrist ou bien revient au groupe Jean-Pierre Fabre. La justice n'a pas encore décidé et continue d'agir si c'est lui seul qui a raison. Ça, je suis vraiment très déçu sur cette conception et cette interprétation de la vie politique dans le pays. Nous luttons pour la démocratie. Lorsqu'on n'est pas, il y a une tendance qui n'est pas d'accord avec nous, je suis président de la DIC. Si aujourd'hui il y a une tendance qui n'est pas d'accord avec moi, nous allons discuter et si on n'arrive pas à une entente, il reviendra à la justice de décider. Ce n'est pas parce que je suis président national que je vais avoir recours aux forces de l'ordre, à la police pour renvoyer les autres et écrire que les autres ne sont plus de la vie. Non, cela ne se fait pas comme ça.
Monsieur Aimé Tchabré Gwagi, merci. Je rappelle que vous êtes président de ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci encore une fois. À propos de la réhabilitation de obus, Agbome Kodjo est également en ligne en direct depuis Lomé. Nous le recevons tout de suite. Bonsoir, Monsieur Kodjo Agbome.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes président d'Obu, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Monsieur Agbome Kodjo, Obu réhabilité. Est-ce qu'il faut féliciter la Cour d'appel de Lomé?
Non, je pense quand même que c'est une justice partielle qui a été faite donc à Obu, parce qu'au départ, on nous disait que les certificats de résidence que nous avons fournis n'étaient pas donc réguliers. Et finalement, donc, et c'est sur cette base-là, plus la démission, qu'on s'est basé du moins pour dissoudre le parti en première instance. En appel, on nous dit que non, que on laisse que l'accusation sur les certificats donc, de résidence qui serait mal établie, que cet argument, qu'on ne retient pas cela, qu'on retire uniquement les démissions. Mais en fait, un peu partout dans le monde, les démissions, les exclusions et également les décès ne sont pas cause de nullité, ou du moins de nullité, donc de la légalité d'une formation politique. Surtout que dans la charte des partis politiques, c'est bien clair que c'est l'une des conditions qu'il faut régler, c'est-à-dire avoir 30 fondateurs provenant des 2/3 des préfectures pour que le dossier soit recevable au ministère de l'administration territoriale. Donc, une fois la légalité acquise, qu'il y ait des décès, qu'il y ait des démissions, qu'il y ait du moins des exclusions, ça n'a pas d'impact sur la légalité. Au total, Obu n'a rien fait. C'est un procès, du moins, d'inspiration politique. Est-ce que la Cour d'appel a eu à faire? Je pense quand même que c'est une justice partielle, puisque nous avons gagné le procès, mais on nous condamne de payer un franc symbolique à Vidada, alors qu'en fait, les dommages d'intérêt, c'est Obus qui a subi les dommages d'intérêt. On nous demande également de payer les frais d'avocat. Donc, de Vidada, je considère que ce type de justice n'est pas au monde, on ne le trouve, parce qu'en droit, c'est celui qui a succombé du moins au procès qui supporte légalement les dépenses. Ce n'est pas celui qui a triomphé. Ils ont voulu dissoudre. Au but, ils n'ont pas pu, ils ont été déboutés, donc c'est à eux de payer les dépenses. Donc,
oui, Agbo, monsieur Agbome Kodjo, est-ce à dire que vous allez faire de nouveau appel ou vous vous conformez à sa décision pour éviter d'autres complications?
Oui, nous faisons appel pour tous les aspects de ce arrêt, du moins où le droit n'a pas été dit. Mais je précise que les 8 membres démissionnaires qu'on nous demande de proposer, nous allons le proposer. C'est ceux qui vont venir aujourd'hui, les militants que nous coptons, ne peuvent jamais avoir le statut de membre fondateur parce qu'ils n'étaient pas à la fondation du parti. Je dis bien que c'est la volonté du juge, mais ce n'est pas la volonté de l'administrateur. Mais comme on est au Togo, nous allons nous conformer à ce qu'ils ont demandé pour qu'au but d'en plus rapidement dans reprendre ses activités.
Oui, Agbemi Kodjo reste toujours en ligne avec nous. Romain Koudodi, depuis Bo, nous a déjà rejoint dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Romain, bonsoir Romain.
Oui, bonsoir. Monsieur Gabriel Agbeome Messan Kodjo.
Oui.
Sans détour, nous voulons être francs avec vous. Certaines de nos sources nous parlent de votre probable démission du FRAC et un éventuel conciliabule avec le parti au pouvoir pour affaiblir la lutte. Cela est-il envisageable à l'heure actuelle, après que vous ayez autant investi?
Vous savez, hein, le parti au pouvoir, comme il souffre d'un déficit donc de légitimité, utilise en tout cas tous les moyens pour troubler l'opinion. Je suis aujourd'hui un allié solide du FRAC. Je viens de me séparer avec Jean-Pierre Farr. Nous avons encore été gazés de moi ce matin. Il n'est pas question pour moi, compte tenu de toute façon de mes engagements. Depuis donc juin 2002, où j'ai publié, il est temps d'espérer. Il n'est pas question pour moi aujourd'hui donc de rallier donc le parti au pouvoir. C'est ceux qui souhaitent fragiliser donc le FRAC qui de toute façon développe ce genre d'idées. Je confirme parce que je reste loyal, fidèle au FRAC, en tout cas jusqu'au bout, mais que c'est un de vos confrères, le forum de la semaine, qui a de toute façon, à partir des considérations que j'ai développées sur l'article 6 de la Constitution togolaise, qui dit que les décisions de la Cour sont opposables aux instances juridictionnelles et à tout le monde au Togo qui a fait du monde de développement. Mais je peux vous assurer de toute façon que lundi, il publiera mon droit de réponse. Donc, je confirme que je suis dans la résistance citoyenne populaire avec nos amis du FRAC et que s'il y a quelque chose du monde à faire, du monde demain avec ce régime, en tout cas, ce serait du monde une négociation claire. Mais encore une négociation, nous avons peur parce que, répétez, on ne respecte pas de toute façon les accords politiques. Une fois de tout avant que les FT ont obtenu ce qu'ils veulent, après de tout, ils déchirent les accords. Prenez l'exemple de l'APJ. Donc pour l'heure là, nous continuons la raison jusqu'au bout et j'ai pu vous assurer que le changement va venir.
Oui, monsieur Agbemi Kodjo, restons dans l'actualité. Jikis Olympio vient de remplacer Jean-Pierre Fabre par Kokou Olu à la tête du groupe parlementaire UFC. Vous avez été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Dans quelles conditions perd-on le titre de président de groupe parlementaire Agbemi Kodjo?
Oui, on perd le titre de groupe parlementaire lorsque les députés du groupe votent un vote de défiance vis-à-vis de vous. Dans le contexte actuel, Jikris Olympio annonce qu'il a nommé Aholou. Il n'a pas le pouvoir de nommer donc un président du groupe. Tout au plus, il peut donner des consignes de vote pour que si à la rentrée parlementaire du 5 octobre, donc on doit revoir le groupe, que Aholou se présente comme un challenger contre donc Jean-Pierre Favre. Mais dans le contexte actuel, je puis vous assurer que si Abbas Bonfo joue son rôle de neutralité, donc par rapport à l'ensemble des formations politiques, si on fait un vote aujourd'hui, Jean-Pierre Favre sera reconfirmé président du groupe parlementaire. Donc en fait, les explications d'Olympio, de toute façon, exprime, si vous voulez, un mépris total ou une méconnaissance totale des règles de fonctionnement de l'Assemblée. On ne nomme pas le président du groupe parlementaire. Il est élu par ses pairs. Il y a un vote. Mais si on fait le vote aujourd'hui, comme il y a une vingtaine de députés qui se reconnaissent dans la ligne donc de Favre, je pense qu'il sera reconduit.
Monsieur Agboumé Kodjo, merci. Oui, eh bien, nous l'avons annoncé en début d'émission qu'un an après le massacre du 28 septembre 2009 qui a occasionné 152 morts et plusieurs femmes victimes de viols en Guinée, les auteurs de crimes odieux circulent librement en toute impunité. Un collectif de défense des droits de l'homme demande que justice soit rendue aux victimes. Le second tour de l'élection présidentielle en Guinée est toujours très critique. Et pour aborder ces deux sujets, nous recevons tout de suite, dans quelques instants, M. Bardet Kaba, président du collectif du 28 septembre. Et j'espère qu'il est déjà en ligne depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir, Bardet Kaba. Allô? Allô? Et j'espère que M. Bardet Kaba n'est pas encore en ligne, mais nous allons quand même tenter de le joindre encore une fois. Mais bien avant de continuer cette émission, je vous convie d'écouter pour le moment un artiste que nous allons recevoir après le dossier de la Guinée. Mais je vous convie tout de suite d'écouter notre jeune artiste, John Aziamou, depuis l'Allemagne, que nous allons recevoir d'ici 15 ou 10 minutes.
Nyondi so jomanya facha o yikpo oke bazugele mionwa gai make koto kona nyiva ya mede iso jave kale oyone nyondi so jomanya facha o yikpo oke bazugele mionwe gai make sankarona nyiva ya mede duso jave kale oyone nyao nyao kale oyone nyao mito kale oyone miodi soja manya vacha o ikpo oke bazugele mionwa gaima ke kuto kona nyivaya mayodu soja be kale onyina fia mi le ronlisia vazia di maro kwa jike kalo dwa rukli kake kekwe akana dwa fofu Yami le motu manya vazia di mala o koji je trao de doa ruki kake ega mai doa fofu Siadu vobe ibe doa kwe busu Chonke a obe rentre dedan Chonke a obe la klimogene Menyambe la klibe duye nyi duye Mami lobe la klimogene Benyambe la klo Bedi vrobe ito ikpo tepe Chonke ya obe rentre dedan Chonke ya obe la klimogen Ame ha obe duya mami vave bok Ito mani obe la klimogen Venya ya paglo
Eh bien, notre ami Bader Kaba est déjà en ligne depuis Paris. Bonsoir, Bader Kaba.
Oui, bonsoir, M. Sylvain Moss.
Eh bien, Bader Kaba, vous venez de sortir une déclaration liminaire ce 28 septembre pour que justice soit faite dans l'affaire du massacre du 28 septembre. Bader, selon vous, il est inacceptable, sous peine de déni de justice, de régler à l'amiable des crimes contre l'humanité. Alors, quels sont vos moyens de contrainte, Bader Kaba?
Alors, écoutez, les moyens de contrainte que nous avions, naturellement, que le peuple de Guinée a à sa disposition, c'est d'abord le statut de la Cour pénale internationale. Vous savez que la Guinée est membre la Guinée est un État qui est signataire du statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Eh bien, ce statut qualifie quatre crimes importants, en l'occurrence le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Et il se trouve que ce qui s'est passé au stade de Conakry le lundi 28 septembre 2009 rentre dans cette catégorie qu'on appelle la catégorie des crimes contre l'humanité. Je dois rappeler que par crime contre l'humanité, il s'agit des actes généralisés et systématiques qui sont lancés contre une population civile en connaissance de cause. Or, très précisément, lorsqu'on reprend les éléments de la définition par rapport aux cas guinéens, au stade de Conakry, il y a un an, effectivement, on a lancé une agression, une attaque contre une population civile pour des raisons politiques, puisque cette population, naturellement, était opposée à l'idéologie dominante du pouvoir qui voulait que le capitaine Moussa Dadis Camara soit candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu des meurtres et il y a eu des cas de violences sexuelles. Le bilan est très grave, 157 morts au minimum, une centaine de femmes violées, des dizaines de personnes qui ont disparu et plus d'un millier de blessés. Au regard de ces éléments, naturellement, on ne peut que régler par la voie pénale ces actes très graves qui sont des crimes contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle le collectif du 28 septembre est foncièrement opposé à toute forme de règlement extrajudiciaire de ces cas très graves qui sont des crimes contre l'humanité. Voilà.
Oui, Badek Abba, restez toujours en ligne avec nous. Romain Koudodi depuis Bonn en Allemagne a certainement quelques questions à vous soumettre. Romain, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Badek Abba, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Et monsieur Bader, pensez-vous que le Sénégal, que le général Sékouba Ba Konaté, président de la transition, a toujours la capacité et la volonté d'organiser une élection transparente en Guinée et de laisser le pouvoir, puisque certains de vos concitoyens doutent déjà de cette tractation à se maintenir?
Écoutez, pour ma part, je veux persister à croire que le général Sékouba Konaté a bien l'intention de mener la transition jusqu'au bout et de rendre le pouvoir aux civils. Je crois savoir que son intention, c'est de tout faire pour que la Guinée ait à nouveau un régime constitutionnel normal. C'est vrai que cette déclaration, il y a à peu près 72 heures, en tout cas il y a quelques jours, sur les antennes de RFI, au micro d'Olivier Rogier, ont un tout petit peu inquiété, puisqu'il a menacé que s'il n'y avait pas d'accord suffisant entre les deux leaders, en l'occurrence Sélou Alain Diallo et Alpha Condé, ben, il pouvait faire le tour des garnisons et qu'il serait tenté naturellement de donner le pouvoir à un civil. Mais écoutez, je veux croire simplement que ces propos montrent bien la déception, voire même l'exaspération du général Sékouba Konaté. Mais je persiste à penser à sa volonté de conduire le pays jusqu'au bout de la transition. En aucun cas, il ne faut céder à la facilité qui consisterait à un retour en arrière.
Oui, Sélou Alain Diallo et les alliés menacent de boycotter le second tour de l'élection présidentielle si Lonseni Camara, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, n'est pas révoqué. Selon vous, est-ce que la présidence ou la neutralité de la CENI qui pose problème ou la capacité de l'institution à rendre le verdict des urnes?
Écoutez, la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Naturellement, elle est chargée d'organiser le scrutin présidentiel. Mais il s'agit là, malheureusement, d'une institution qui a montré ses limites au sortir du premier tour. Vous savez qu'il y a eu des graves cas de fraude, d'irrégularité, de fausses cartes d'électeurs, des urnes qui ont été subtilisées, mais également des PV, notamment pour la ville des Cancan, pour la ville de Lola et aussi pour la localité de Mangana. Alors, à la fois, il y a un problème par rapport à la capacité d'organisation de l'élection par la CENI, mais aussi il y a un problème par rapport à la composition. Ça, c'est évident. Mais pour autant, on ne peut pas aujourd'hui enlever à la CENI la possibilité d'aller jusqu'au bout. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'agir, c'est de travailler pour renforcer les capacités de la CENI, agir pour que la CENI soit dans une logique qui soit à la fois impartiale, mais faire en sorte aussi que les organes qui représentent la CENI au niveau des préfectures, mais aussi au niveau des sous-préfectures et au niveau des communes, que ces organes soient renforcés. Je crois que vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure, ce qu'il faut faire pour que l'élection soit régulière et libre, transparente en Guinée, d'abord, il faut que la CENI évite scrupuleusement les erreurs du premier tour. Je crois que M. Alpha Condé et ses alliés regroupés au sein de ce qu'on appelle le groupe arc-en-ciel, l'alliance arc-en-ciel, ont eu déjà à faire des propositions. Il y a eu 27 points de recommandation qui ont été proposés à la CENI pour éviter les erreurs du premier tour. Si la CENI accepte de mettre en œuvre ces 27 points, a priori, on devrait aller vers des élections qui soient des élections acceptées par tous. Autre chose que je veux rappeler quand même par rapport à la CENI qui est très très grave, il faut dire que la CENI a utilisé plusieurs milliards de francs guinéens pour organiser cette élection et le fait qu'elle n'arrive pas à le faire correctement et surtout le fait qu'elle ne joue pas un jeu transparent, un jeu impartial, je pense que c'est de nature à traîner un peu dans la boue le peuple des Guinées mais aussi à minimiser les sacrifices, parce que les Guinéens ont payé par leur sang, par leur vie, le processus de démocratisation, mais aussi il faut respecter aussi la communauté internationale qui a mobilisé beaucoup de fonds, beaucoup d'argent pour que les élections soient organisées normalement. Il appartient dorénavant à la CENI d'agir et de pouvoir relever le défi qui est le sien.
Badé Kaba, merci. Je rappelle que vous êtes le président du collectif du 28 septembre et pour les massacres en Guinée. Encore une fois, merci d'avoir été en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons recevoir maintenant notre invité pour la page culturelle et musicale de Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons recevoir John Aziamou. J'espère qu'il est déjà en ligne depuis l'Allemagne. Bonsoir, John Aziamou.
Bonsoir, mon frère Sylvain Amos.
Oui, j'espère que vous êtes le griot du Togo, le griot de l'Afrique. Alors, John Aziamou, vous êtes chanteur et auteur-compositeur. Parlez-nous un peu de votre parcours musical.
Ah oui, d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Et mon parcours musical, au fait, je dirais, c'est un peu accidentel, parce que je suis venu à la musique un peu par le hasard. Peut-être que si je suis encore au pays, je n'allais pas peut-être découvrir cet aspect de ma personne. Mais depuis que j'ai quitté le pays, bon, c'est une échappatoire pour moi d'essayer de vider toute la situation qui nous pèse dessus à l'extérieur qui m'a amené vers la musique. Bon, c'est dans ce cadre que j'ai eu l'inspiration de faire des titres avec des amis et voilà, disons que je suis rentré dans la musique par l'accident.
Oui, John Aziamou, le temps étant contre nous, nous allons quand même faire découvrir vos œuvres qui sont sûrement connues et par le public togolais. Mais ici en Suisse, on ne vous connaît pas assez, mais on aura l'occasion pour nous ce soir de le faire quand même découvrir votre musique. Nous allons écouter Mio de Soja. Pour vous, qu'est-ce que c'est que Mio de Soja?
Oh, Mio de Soja, c'est juste un constat, hein. Tout le monde le voit très bien. Et au fait, et nos forces de l'ordre, en principe, sont là pour nous donner de la sécurité, pour nous donner la paix dans nos organisations. Mais dommage que nous constatons tous que ce n'est pas souvent le cas avec nos forces de l'ordre, principalement et la gendarmerie qui fait montre de gaz lacrymogène à tout vent. Aujourd'hui, on dirait un bébé à la vue d'un nouveau jouet, ça fait mal. Il faudrait pas qu'on tienne un peuple jusqu'à ce niveau, hein. Il faut comprendre que les gaz lacrymogènes aussi ont un effet à la santé publique. Hein.
Oui, John, nous allons quand même faire découvrir tout de suite Mio de Soja. Mais restez toujours en ligne avec nous. Hein. Donc, on va écouter Mio de Soja ensemble.
Mio de Soja, manya va chao y po ke bazugele mio noa. Daima ke koto kona ni vaya. Mede y soja ve kale oyone. Mio di soja manya vacha o yikpo oke. Bazugele mio nwe. Gai meke sankarona nyivaya. Mede du soja ve kale oyone. Nyao, nyao, kale oyone. Nyao, mito, kale oyone. Mio di soja manya vacha o yikpo oke. Bazugele mio nwe. Gai meke kutukona nyivaya. Meyodu soja ve kale onina. Fia mi le ron lisia vazia di mado. Kwa di dwe galo doa rukli. Kake egbea gana doa fofu. Fia mi le motu manya vazia di malao. Kwa di dwe trao de doa rukli. Kake egbea mali doa fofu. Siadu vobe ibe doa kwe busu. Chonke a obe rentre dedans. Chonke a obe lacrymogène. Menyambe la clibe douye ni douye. Mamilo be lacrymogène. Benyala parlo.
Bien, et nous avons écouté Mio de Soja, mais c'est un peu court. Et John Aziamou, vous êtes toujours en ligne? Allô? Allô, John?
Dada gbibia de la gba po busu chonke ya obe rentre dedans chonke ya obe la climogène de la ila pia o di la do la pia o bebe la climogène benyaya bagro.
Oui John, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Sylvain Amos.
Oui, on a écouté Mio de Soja. Malheureusement, le temps est contre nous. Mais le confrère et collaborateur de cette émission, Romain Koudjodi, a certainement quelques questions à vous poser. Romain, bonsoir, Romain.
Oui, bonsoir, monsieur John.
Bonsoir, monsieur Koudjodi. Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Monsieur John, en écoutant vos morceaux, surtout politiques, on pense tout de suite au griot d'Afrique. Par exemple, du Mali, du Sénégal, et dans ces pays, le griot, c'est quelqu'un qui apporte un message concret au peuple. Mais pourquoi chantez-vous seulement dans votre langue locale pour votre pays? Pourquoi ne chantez-vous pas pour l'Afrique francophone, dans la langue française, par exemple?
Peut-être que vous ne connaissez pas assez Aziamour. Hein? J'ai d'ailleurs commencé par la langue française. Donc, c'est vous dire que j'essaie d'être quand même à la hauteur de votre espérance. Et je chante aussi en français, bien entendu. D'ailleurs, Togo, mon beau pays, c'est un titre qui a été au début de ma carrière, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est en français. Et sur le plan panafricain, je m'y engage aussi tellement. Je ferai mon prochain album, même porte des titres purement en français aussi.
Donc, oui, John Aziamour, dans 4 minutes, nous allons finir cette émission, malheureusement. Et nous avons, j'ai devant moi 3 de vos albums ici, Togo, mon beau pays, et Ménigba, et le troisième, c'est déjà quoi, John Aziamour?
C'est Bléou, Bléou. Était au fait le tout premier album, c'est le dernier qui est Ménigba actuellement.
Alors John, pour procurer de ces 3 albums, comment est-ce que nos auditeurs qui sont actuellement câblés sur le www.kalanka.ca pourraient quand même s'en procurer?
Bon, au fait, c'est avec Disque Africa et ici en Allemagne. C'est un compatriote qui s'appelle Théo Amenouvé qui est chargé de la distribution. Bon, mais tous ceux qui peuvent être en contact avec l'artiste lui-même peuvent aussi trouver les moyens de s'enquérir de ses albums.
Oui, en tout cas, John Aziamour, merci d'être en direct avec nous depuis l'Allemagne. Et nous allons finir, bien sûr, avec vous en écoutant le dernier morceau intitulé Adino Baba. Adino Baba, c'est quoi pour vous Adino Baba Namiro?
Adino Baba, c'est vous dire simplement qu'il ne sert à rien que l'on mette fin à des vies humaines comme ça, à cause de la politique surtout. Parce qu'au fait, et sur le plan purement national, chacun veut le bien de son pays. Donc, il faudrait se considérer en adversaire plutôt qu'en ennemi. Donc, l'assassinat de Tavio, par exemple, d'autres assassinats politiques, là, et je sais simplement de dire à nos gouvernants, à tout le monde, à tous les hommes politiques, aimons-nous et plutôt pensons à nos êtres chers et à ceux-là qu'on enlève les enfants, dont on torture les enfants, et ce ne serait plus acceptable dans un monde aussi éveillé ou bien dans un monde aussi où dans ce troisième millénaire, j'allais dire tout ça.
Bien sûr. Merci John Aziamour, en tout cas, d'être avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons finir encore dans 2 minutes cette émission et nous allons, sûrement, l'occasion se présentera et on peut se retrouver sur ce plateau de Radio Kalanka. Merci et bonsoir chez vous, John.
Bonsoir, merci beaucoup Sylvain.
Agbeta we bi zo avu gbelo yo yo agbeta bli bo zo avu gbelo yo yo mena vi be bi zo avu gbelo yo yo meta we bi zo avu gbelo yo yo Democracy benyaya, democracy benyaya ma we odoka mora fi o kan we ole kundru la fi o kan Maï Gbonvie ma va toi blousser. Tu y n'a ni yo vo toi, tu y n'a ni a va toi.
Eh bien, fenêtre sur l'Afrique, stop, fin. Fabi Kwasi, Romain Koudoti depuis Bono, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Sylvain Amos au micro. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Mais bien avant de prendre congé de vous, je vous laisse méditer sur ce proverbe. L'activité conduit un homme au pouvoir, mais la paresse mène à l'esclavage. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio, même heure, même studio. Et le programme continue sur Radio Canal K.
Démocratie benyaya, démocratie benyaya, Odogamo la fioka, Ola Kundru la fioka. Maïsoudou ma va et toi blousé. Tui nani yo votoi, tui nani abattoi, Jova blou redoudou, moi dollar.